Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a eu pour ce week-end assez d'actualité et qu'on peut se permettre exceptionnellement un détour par le sentiment d'amitié, par exemple, qui a ceci de beau, à mon avis, qu'il est difficile de le définir, qu'il est toujours un petit peu flou, mais qu'il résiste surtout. Qu'est-ce que c'est être ami? C'est une question de philosophie. On pourrait dire que ça repose sur le temps, sur la constance, ou alors sur l'échange, sur la connaissance de l'autre. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas d'amitié véritable sans bienveillance, sans vertu. Qu'est-ce qui fait qu'on est ami dans la vie? Jean de La Fontaine a une réponse que je trouve être la plus juste. Il dit, en substance, que l'amitié repose sur la prévenance, sur l'attention, sur quelque chose d'infiniment délicat. Il écrit, dans la fable qui s'appelle Les deux amis, l'inquiétude de l'un pour l'autre, la façon qu'on a d'envisager le pire et d'être toujours là. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que fait mon invité d'aujourd'hui de l'amitié? Dans son nouveau film Mathias et Maxime, présenté à Cannes en mai dernier et en salle après-demain, il la célèbre comme jamais. Il en saisit les fulgurances, les débordements, les silences aussi, à travers une bande et une histoire entre deux amis qui se découvrent une attirance jusqu'alors insoupçonnée. Bonjour Xavier Dolan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir, merci à vous de m'inviter.
Avant toute chose, qu'est-ce que c'est un ami pour vous? Ça tient à quoi, l'amitié?
Pour moi, l'amitié, c'est, vous l'avez dit plus tôt, en fait, l'échange. Mais j'ai envie de dire aussi l'écoute, la loyauté, la générosité. Pour moi, c'est ça.
Vous vous en faites souvent, des amis, facilement, vous?
Je pense que je me fais, comment dire, des vrais amis, ceux qui comptent, ceux qui restent, ceux qui survivent aux épreuves, ou même juste à la façon dont on a de se distancer l'un de l'autre, parce que le temps, la vie nous sépare, puis on prend des routes différentes. Mais je pense que les vrais amis, non, je m'en fais pas très très souvent, mais des amis ou des gens pour qui je ressens une amitié ou un sentiment de disons amical ou d'affection, ça, oui, quand même assez facilement. J'aime bien l'amitié, donc je recherche pas nécessairement l'inverse, disons.
Et quel genre d'ami est-ce que vous êtes, vous? Ou est-ce que vous aimeriez?
Je sais pas, il faudrait demander à mes amis. Mais...
Un ami amoureux, parfois?
Ben moi, oui, en fait, c'est drôle parce que je reviens d'une tournée... En fait, je reviens de deux tournées. Une tournée partout en province au Québec, puis une tournée en France aussi, dans quelques villes, puis... C'est quelque chose que j'ai répété assez souvent, mais moi, je me sens assez amoureux de mes amis, en fait. Pas de façon toxique ou de façon ambiguë ou malsaine, mais je ressens... j'ai l'impression, le même genre de sentiment que j'ai pu ressentir envers des gens dont j'étais réellement amoureux, mais physiquement aussi, disons. Et là, pour mes amis, c'est vrai que je ressens le même genre d'affection, une espèce de magnétisme, une façon de vouloir aller vers eux, de vouloir leur contact, leur étreinte. On se prend tout le temps dans les bras, on est très affectueux l'un envers l'autre. On s'invective, puis on s'insulte, puis on s'encourage aussi constamment, puis on s'écoute, puis on se parle, puis on partage.
Puis on se sauve aussi, j'ai l'impression. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être sauvé par l'amitié? J'ai l'impression que ce film, c'est aussi ça qu'il raconte.
Ben... C'est-à-dire que ce qui m'a sauvé, je pense, c'est c'est l'équilibre puis le réconfort que m'a apporté le groupe, la collectivité, oui. La meute, mais sans connotation négative, la meute, je veux dire un groupe d'amis. Ça, j'en avais pas vraiment la connaissance ou l'expérience avant l'âge de 25-26 ans, je dirais.
C'est assez passionnant, parce que chacun de vos films, j'ai l'impression, s'intéresse à la manière dont un individu se positionne et existe par rapport à un groupe social, qu'il s'agisse de la famille, du couple, de la société. En général, comment on fait pour exister en tant qu'individu au sein d'un groupe? C'est une question que vous posez sans cesse.
Ben, c'est-à-dire que dans les films précédents, c'est pas des gens qui existent au sein d'un groupe, c'est des gens qui existent en marge d'un groupe. Là, le groupe en soi n'est pas l'ennemi ou l'antagoniste ou une société qui ostracise les autres. Le groupe est un groupe de gens bienveillants, dont font partie les deux protagonistes, Mathias et Maxime. Et puis, c'était la première fois, je pense, que j'avais l'occasion de parler justement du groupe comme étant quelque chose qui nous accueille, quelque chose qui nous enveloppe, puis qui nous protège, et non pas quelque chose qui nous rejette, qui nous confronte, qui nous, tu sais. Puis j'ai jamais vraiment fait des dynamiques de groupe dans ma vie. J'ai fait des films à deux, à trois. Mommy, c'est une dynamique à trois. Laurence Anyway, c'est une dynamique à deux. Les Amours Imaginaires à deux. J'ai tué ma mère à deux. C'est tout le temps deux. Puis là, finalement, tout à coup, on est 6, 7, 8. Et puis, comme je le dis, c'est un groupe qui est bienveillant. C'est pas un groupe qu'on antagonise ou qui effraie. Puis qui, c'est un groupe de gens qui sont bien intentionnés. Puis chacun dans ce groupe a sa place, a sa voix, sa personnalité, sa couleur. Puis c'était la première fois que je pouvais en parler, parce qu'avant je savais pas c'était quoi.
Et quel sujet de cinéma est-ce que c'est, l'amitié, pour vous?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je me pose la question, c'est la première fois, j'ai l'impression que vous faites un film sur l'amitié, que vous l'abordez sous l'angle du groupe, donc vous le dites, ouais, de manière si frontale, autant comme un sujet, mais aussi comme un procédé, parce que vous l'avez fait avec une bande d'amis, en fait, ce film.
Mais c'est une bande d'amis qui sont tout à fait professionnels, dans la mesure où c'est des acteurs qui sont confirmés chez nous au Québec. Après ça, pas accidentelle, mais disons accessoire, on est amis aussi dans la vie. C'est pas accessoire pour moi, évidemment, c'est primordial, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, ce sont des comédiens. Mais je pense que l'amitié, pour ce que je réalise en fait avec le temps, c'est que je pense que je parle d'amour depuis longtemps, mais ce qui a été le plus fort dans ma vie, dans ma vingtaine en tout cas, c'est pas vraiment l'amour, c'est l'amitié.
Vous êtes ému quand vous le dites.
Hein?
Vous êtes ému quand vous le dites.
Mais non, parce que là, il est trop tôt pour être ému. Mais je suis pensif en tout cas. Non, mais parce que ce film, c'est quand même l'occasion, tu sais, de porter un regard sur les 10 dernières années. Puis c'est inévitable pour moi, parce que c'est un film qui fait un peu la somme de tous les aspects, tous les éléments, tous les thèmes que j'ai voulu explorer, mais qui les organise différemment, dans la mesure où, tu sais, c'était tout le temps une génération à la fois, une classe sociale à la fois, un individu à la fois. Là, tout à coup, c'est un groupe, plusieurs générations, plusieurs classes sociales, plusieurs niveaux de langue, de langage. Tu sais, c'est un film qui est très pluriel, j'ai envie de dire.
C'est... Alors justement, ça, c'est une vraie question de cinéma. Comment on fait pour filmer le groupe, pour en capter l'énergie, la cohésion, la vie? Ça se traduit par quel type de cadrage, par quel type de plan?
Ben, je pourrais pas vous l'expliquer avec... J'ai pas la science infuse, mais pour moi, ce qui est intéressant dans la notion de groupe, c'est que quand les personnages étaient ensemble, puis tu sais, d'ailleurs, en dehors, en fait, de cette idée de groupe, les deux personnages principaux évoluent de façon très solitaire dans leur quotidien, puis de façon très, très anecdotique. C'est seulement quand le groupe est présent dans le film que le film vit vraiment, puis existe vraiment. Les gens nous le disent beaucoup, ils disent, on a hâte de le retrouver, le groupe. À un moment, quand ça fait 20 minutes qu'on l'a pas vu, on s'inquiète de pas retrouver la dynamique de groupe. Puis pour moi, la façon de la filmer, cette dynamique-là, à l'écran, c'était de toujours faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnages en amorce et en fond quand on filme un personnage, pour qu'on comprenne que le groupe et la collectivité est inévitable. On peut pas s'isoler, on peut pas être seul quand on est dans un groupe. Tout le monde est toujours là, pour ce que ça vaut en termes de la façon dont ce groupe-là nous soutient, nous épaule, mais nous épie aussi, nous envahit, c'est-à-dire que le groupe, je le répète, est bienveillant, mais quand on existe comme ça en meute, on existe dans une certaine indiscrétion. Tout le monde sait tout, tout le monde ressent les malaises, tout le monde ressent les tensions. Donc, c'est-à-dire que chaque plan de chaque membre du groupe est tout le temps pollué par la présence de 1, 2, 3, parfois 4 membres et du groupe.
C'est passionnant. Et je pense aussi à la façon dont la parole circule dans votre film, dans une sorte de chaos joyeux, de chaos frénétique aussi. Quel plaisir est-ce qu'il y a pour vous, en tant que scénariste et metteur en scène, à faire parler vos personnages, à exalter le verbe, le dialogue, comme vous le faites dans ce film?
Quel plaisir, le plaisir, c'est immense. Mais aussi, tu sais, je pense que c'est seulement en je veux dire, en fait, j'allais dire une connerie, parce que j'allais dire, c'est seulement en s'exprimant que les personnages révèlent des choses d'eux. Mais dans ce film, c'est surtout en ne disant rien qui...
En disant rien.
Oui, parce que c'est un film où il y a énormément de paroles et énormément de mots. Mais finalement, comme la plupart du temps dans nos vies, on parle, puis on oublie d'exprimer l'essentiel. Surtout dans une dynamique de groupe comme ça, où on a peur de la confrontation, on a peur de choquer les gens, on a tendance à taire les choses qui ont de l'importance, puis qui
Alors
ont de la valeur.
Alors ça en fait un film sur le silence?
Ben, il y en a plein des silences dans ce film, puis des regards, puis pour moi, ils sont beaucoup plus importants que toutes les conneries, puis les blagues que les personnages débitent à chaque minute. C'est-à-dire que je dis pas que ces blagues-là n'ont aucune valeur, elles nous parlent de leur complicité, de la longévité de ce groupe, de son âge, de la façon dont ils ont été ensemble depuis toujours, qu'ils ont des références, ils ont des souvenirs, il y a une mémoire de ce groupe qui existe, mais finalement, quand le conflit dans le film survient, personne le verbalise, personne en parle, personne s'assoit pour dire bon ben c'est quoi le problème, c'est quoi le puis moi si tu veux avec mes amis, je pense que au fil du temps on se connaît puis c'est un travail de longue haleine de réussir à exprimer aux gens qu'on aime le malaise qu'on ressent par rapport à eux, par rapport à leur comportement, par rapport à certaines choses qu'ils ont pu dire, qu'ils ont pu faire, dire tu m'as blessé, mais ça se développe, ça se travaille, et puis de toute évidence, c'est plus dans un film où toute l'attention repose sur la problématique puis les non-dits. Évidemment, si les personnages avaient la maturité de se dire ce qui cloche ou d'énoncer les problèmes, ben il y aurait pas de film derrière. Donc c'est plus intéressant d'avoir des gens qui sont renfrognés, qui taisent leur malaise puis qui retiennent tout pour eux, parce que en retenant, ben on sait qu'éventuellement il va y avoir une explosion.
Vous parlez de vous aussi, il y a plein de choses que vous n'exprimez pas, Xavier Dolan.
Pas vraiment, non. Je pense que j'exprime exactement tout ce qui me... non, justement, c'est ce que je vous disais, dans la vie, avec mon groupe puis avec les gens autour de moi, je pense que je vois pas l'intérêt de... Ben, il y a des choses, évidemment, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je sais pas, quand on cherche à construire une relation avec quelqu'un, si on le fait en étant effrayé de la confrontation, de la vérité, de la critique, on construit des rapports qui sont artificiels, puis qui s'effondrent sur la durée, parce que il y a tellement de choses qu'on n'exprime pas puis qu'on retient pour soi que finalement, à un moment donné, ben, dans les films comme dans la vie, ça explose encore une fois. Puis moi, j'ai vécu des rapports comme ça qui étaient frustrés parce qu'on n'arrivait pas à se dire les vraies choses, puis j'en veux plus dans ma vie des rapports comme ça. C'est des gens qui finissent par disparaître de toute façon de mon existence. Fait que, de façon naturelle, je veux dire, on s'éloigne parce que, comme on ne se dit pas les vraies choses, puis comme il y a, tu sais, comme je pense à quelqu'un comme Nancy Grant, tu sais, qui est la productrice de mes films, qui est une grande amie. Depuis 10 ans, on a fait des films, mais j'ai l'impression que ce qu'on a travaillé le plus, c'est nos rapports personnels, la façon dont on interagit, la façon dont on apprend à se dire les vraies choses le plus rapidement possible. Parce que dès que ça traîne, dès qu'il y a des choses qui sont tues ou retenues parce qu'on a peur de la réaction l'un de l'autre, ça explose, puis ça nous revient en plein visage, puis ça crée des irritations, des malaises, ça crée une espèce de ressentiment qui est inutile puis qui nous freine dans nos élans artistiques puis dans nos élans humains l'un envers l'autre. Et puis, je pense à elle, mais je pense à la plupart des rapports que j'ai avec mes amis, mais j'ai envie de dire que celui avec Nancy est celui qui est le plus frontal. Celui où, avec le temps, j'ai le plus appris, et elle aussi, je pense, à dire tout de suite ce qui cloche. Mais à dire aussi ce qui est bien.
Celle qui explose dans cette émission, pas souvent pour le meilleur, souvent pour le pire, c'est évidemment la culture, mon cher Xavier, son actualité désespérée et désespérante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 14 octobre?
This next poem is called It Doesn't Get Better.
Giorno raccroche, l'artiste et poète américain engagé John Giorno. C'était un vendredi à New York, il avait 82 ans, figure de l'avant-garde, héritier de la Beat Generation. Il avait consacré sa vie à faire exploser les carcans de l'art poétique. Pionnier de la poésie sonore, il avait créé en 1968 Dial a Poem, un système d'écoute par téléphone de poèmes lus et enregistrés par Allen Ginsberg, William Burroughs ou Patti Smith en personne. Salut poète. « Good films, good food, good friends, c'est la devise du Festival Lumière qui célèbre cette année ses 10 ans, qui s'est ouvert samedi à Lyon en grande pompe. Vous y étiez, Xavier, au programme de cette lumineuse manifestation créée par Thierry Frémaux. Près de 159 films en projo, une flopée d'invités chics et surtout un hommage au grand Francis Ford Coppola, lauréat du prix Lumière 2019, attendu dans la capitale des Gaules, vendredi pour une masterclass événement. Un c'est bien, trois c'est mieux. Robert Smith, leader légendaire de The Cure, vient d'annoncer la sortie imminente de pas un, pas deux, mais bien de trois nouveaux albums studio du groupe qui célèbre cette année ses 40 ans de carrière, annoncés comme dark et intense. Le premier d'entre eux devrait être livré avant la fin de l'année. Ça fait 11 ans qu'on attendait un nouvel opus du groupe The New Wave britannique. Allez là. Et enfin, Atlantique sur la vague du succès, le film événement de la jeune réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, récompensée d'un grand prix au Festival de Cannes, n'en finit plus d'enchaîner les honneurs. Le long métrage aux airs de fables poétiques et politiques sur le drame des migrants méditerranéens a reçu le prix du meilleur film, premier film au Festival du film de Londres ce week-end. Atlantique a aussi été désigné pour représenter le Sénégal aux Oscars 2020. Go, Mati. Xavier Dolan, aussi invité de Boomerang ce matin pour Mathias et Maxime en salle après-demain. On le disait, un film dans lequel vous jouez, Xavier. Et où votre personnage se distingue des autres à plusieurs égards, notamment par cette tache de naissance qu'il a sur ce visage. Cette tache, quelle histoire est-ce qu'elle nous raconte pour vous?
Je pense qu'il nous raconte une histoire immédiate sur la souffrance du personnage, parce que quand on voit une tache de naissance, une tache de vin aussi... Et elle est très sombre, elle est très dense. C'est quelque chose qui est inexorable pour quiconque le voit dans la rue, dès qu'il rentre dans un café, dès qu'il entre dans un bar, dès qu'on le voit tout de suite, on voit le...
la différence.
Mais l'importance aussi, surtout, de cette démarcation. Puis je pense que tout de suite, ça nous dit la souffrance du personnage, ça nous dit aussi son histoire. Puis on imagine tout de suite les moqueries à l'école, les brimades de ses camarades de classe, de...
Et le film interroge ça d'ailleurs. Le regard des autres, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Xavier?
C'est complexe, le regard des autres. C'est ce qui est encore plus dur, c'est les regards qu'on porte sur soi-même. Mais je pense que c'est ça, en fait, pour moi, dans les dernières années. Ça a été cette espèce de rapport d'inversion entre l'importance que j'accordais au regard des autres, et puis maintenant l'importance que j'accorde à mon regard sur moi-même.
Vous voulez dire que ça a pu être une violence, ça a pu être un poids, et aujourd'hui ça l'est moins?
C'était juste trop violent, en fait. Il a fallu que je travaille là-dessus dans les dernières années, parce que je pense que je pouvais pas investir autant de temps et autant d'énergie dans ma vie à répondre au regard des autres. C'est un regard parfois qui est très très bienveillant, mais évidemment le regard qui est le plus bouleversant, c'est le regard qui est haineux, puis le regard qui est violent. Donc c'est celui qui nous marque, c'est celui qui nous obsède, c'est celui qui nous persécute. Puis j'ai passé tellement de temps dans ma vie à vouloir contredire ce regard-là, apprivoiser ce regard-là, vouloir l'informer, le changer, et puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce regard-là, c'est pas le mien, c'est celui des autres. Il ne m'appartient pas. Puis il y a des gens qui ne veulent pas changer d'avis, ne veulent pas changer de perspective, ne veulent pas être informés par rapport à qui et qui fait quoi. Ils ne veulent pas des faits, ils ne veulent pas d'informations. Ce qui les intéresse, c'est leurs émotions, c'est leurs a priori, la façon dont instinctivement ils peuvent juger quelqu'un, parce qu'ils y trouvent, je pense, un plaisir, puis un réconfort aussi par rapport à eux-mêmes. Donc, ce que j'ai décidé d'essayer de travailler, c'est plutôt que le regard des autres, c'est le mien par rapport à moi-même. Et puis, c'est encore plus dur, je pense.
Oui. Vous diriez que votre cinéma a interrogé la place que la société faisait à ceux qui sont stigmatisés comme différents, à ceux qui ne s'inscrivent pas dans la norme, quelles qu'en soient les raisons?
Je sais pas. C'est des questions pour des gens qui observent de façon statistique la manière dont le cinéma s'insère dans nos vies. Moi, je sais pas, je peux pas vraiment mesurer ou calculer si mon cinéma a changé quelque chose, ou c'est dur pour moi de répondre à cette question là de façon exacte.
Ça a pu être un outil, pour autant, le cinéma, pour vous, un outil pour disposer, pour lutter contre certaines violences?
Oui, ça a été très thérapeutique pour moi, le cinéma. Ça a été, je pense que en fait, il y a deux violences contre lesquelles je lutte pour moi en faisant des films. Puis c'est la violence qui vient à moi de la société, de la façon dont la société rejette énormément de gens, puis la violence qui vient de moi, qui est peut-être encore plus grande, puis qui est là depuis toujours.
Vous savez, je pense à un plan, là, à une image, dans Mathias et Maxime, celle d'un panneau publicitaire pour du pain de mie, qu'aperçoit votre personnage par la fenêtre de sa voiture. On y voit une famille très comme il faut, avec un papa, une maman, deux enfants en train de pique-niquer. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette image, Xavier Dolan? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Une illusion? Un mensonge? Un rêve?
Ben, c'est pas un mensonge, parce que ça fonctionne pour tellement de gens, mais c'est une image qui symbolise évidemment l'hétéronormativité, puis le bonheur de la famille, le confort, en fait. Et puis, le personnage de Maxime voit cette image-là très, très, très tôt dans le film. Et puis, je pense que ça met la table au niveau de l'importance, en fait, de justement de l'hétéronormativité, puis de ce qu'on appelle les standards ou la norme dans le film, puis la façon dont les personnages s'opposent à cette norme dès lors qu'ils réalisent qu'en eux un espèce de sentiment amoureux contradictoire à leur préférence profonde, c'est-à-dire qu'ils sont les deux hétérosexuels, et puis ils réalisent qu'ils peuvent s'aimer alors qu'ils se connaissent depuis toujours, qu'ils sont comme des frères, qui sont les meilleurs amis du monde, puis ils réalisent qu'ils peuvent être amoureux l'un de l'autre sans être nécessairement attirés sexuellement l'un par l'autre. Donc je pense que c'est encore plus troublant pour eux. Puis ben, cette image en début de film d'une famille qui est en train de pique-niquer gaiement avec la confiture, puis le pain, puis les pancakes américains avec le carré de beurre, puis le sirop d'érable qui dégouline sur les côtés en bavure partout, puis l'espèce de nappe à carreaux rouges et blanches, et c'est évidemment une image de perfection, une image de mais artificielle aussi.
Quelles images vous faisaient rêver, vous, quand vous étiez petit, Xavier?
Quelles images me faisaient rêver? Ben, des images qui étaient loin de moi, qui étaient loin de ma vie. C'est drôle, hein, parce que c'est, quand j'y pense, les images qui me faisaient rêver quand j'étais adolescent ou quand j'étais enfant, c'était des films comme La Petite Princesse de Alfonso Cuarón, des films automnales, très... je sais pas si on dit autonome.
Sans doute, disons autonome. On demandera aux auditeurs.
Autonome,
ne manquerons pas de nous faire la remarque.
Autonome. c'est particulier quand même, autonome. Mais enfin, des films d'automne, d'époque. La Petite Princesse, c'est un film qui se passe dans les années, je pense, 1800, ou ça se passe à New York. Il y a un espèce de côté gothique, un côté... C'était tellement loin de ce que je vivais, moi, en banlieue de Montréal.
Des films qui ne nous ressemblaient pas.
Ouais. Des films comme Titanic, des films d'époque, des films grands, des films ambitieux. Puis maintenant, les films que moi, j'essaie de faire, c'est des films qui se passent en banlieue, dans des milieux plutôt désargentés.
Les films qui sont les images qui ont pu vous manquer, vous, jeune?
Ah, je comprends pas, c'est une question ou c'est une...
C'est une question, ouais. Est-ce que vous faites aussi des films qui sont des images qui auraient pu vous manquer, que vous n'auriez pas vues?
Ben, c'est pas des images qui ont pu me manquer, c'est des images qui ont... Comme je vous dis, c'est... Moi, je retourne de plus en plus, je gravite vers un cinéma qui ressemble de plus en plus à mon adolescence, qui est tourné dans les rues dans lesquelles j'ai grandi, dans les quartiers que j'ai fréquentés, dans les bus que j'ai pris pour aller à l'école, pour aller au métro, pour mais ce qui est différent en fait de mon enfance ou de mon adolescence, c'est les sentiments qu'on vit dans ces films, c'est-à-dire que tu sais l'espèce de solidarité entre femmes, l'amitié entre femmes, par exemple entre Suzanne Clément et Anne Dorval dans Mommy, ça je l'ai pas vu dans mon enfance. Je l'ai entreaperçu, je l'ai ressenti un peu, par exemple entre ma mère et certaines de ses amies, mais c'était des amitiés qui étaient quand même différentes. Tu sais, moi, dans Mommy, c'est une amitié qui est romantique, qui est idéalisée, puis de la même manière, dans Mathias et Maxime, il y a un personnage qui s'appelle Frank. Vous direz Franck ici. ce personnage-là est un espèce de mâle alpha qui est assez bâti, qui a les cheveux longs, qui a l'air d'un espèce de surfer boy d'Australie, qui est très, qui a priori devrait être très macho, très, qui paraît en fait très beauf, très, et qui finalement est un des personnages les plus protecteurs, les plus doux, les plus tendres du film, qui demeure profondément hétéro, mais qui est celui qui protège Maxime quand Mathias l'humilie devant tout le monde, quand il le laisse en carafe, quand il l'ostracise, quand il le ridiculise en fait. Et puis, et pour moi, ça a toujours été important, une façon de renverser la réalité en fait en faisant de Franck quelqu'un qui dans la vie a priori nous aurait l'air d'un mec je sais pas qui pourrait nous mettre de côté ou nous humilier et qui finalement dans le cinéma dans la fiction est quelqu'un qui nous veut du bien.
On va continuer Xavier à parler de renversement. À rêver aussi, sous le signe de l'amitié, avec John Baez, tiens, une chanson qui, moi, personnellement, me bouleverse. Elle s'appelle Best of Friends. Elle date de 1973. Vous êtes sur France Inter avec Xavier Dolan. Vous écoutez Boomerang. On est lundi.
We may not always be the best of lovers, but if you leave it to me, I think I can see we'll always be best of friends. And one day when I am old and on the porch with knittings around my knees, you hear me say, excuse me please, but aren't you the one? And wasn't it fun way back when? And if that should come true, I'd throw my arms around you and watch you smile just for a while once again. Of lovers, but if you leave it to me, I think I can see we'll always be the best of friends.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre l'agneau de 7 heures et l'enfant Kinder, avec son sourire plein de douceur, la boucle soyeuse sous une casquette noire ce matin, le regard pétillant, mordeur, le nez frondeur. Il a l'air apaisé de celui qui s'est trouvé avec son sweat à capuche. Ce matin, Xavier Dolan, invité de Boomerang pour Mathias et Maxime en salle après-demain. L'histoire, on le disait, d'une amitié entre deux garçons qui basculent. Le jour où, pour les besoins d'un film d'étudiants, ils acceptent de s'embrasser devant une caméra. Et ce baiser va bouleverser leur vie. Or, il se trouve que ce baiser, vous ne le montrez pas, Xavier. Pour quelle raison vous ne le montrez pas?
Ben, je pense pour que l'audience, pour que le spectateur ait envie de le voir, puis que ce baiser-là lui manque et qu'il se surprenne à le désirer. Pour moi, le plus beau compliment que j'ai eu sur Mathias et Maxime vient, mais je pense qu'on comprend pourquoi, d'hétéros, hommes ou femmes, qui me disent c'est frustrant de pas voir le baiser. Et évidemment, sans révéler quoi que ce soit sur le film, il y a un moment quand même dans le film où il y a un rapprochement, mais il arrive très 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 tardivement. Et puis je pense que l'idée, c'était de priver les gens de ce baiser, parce qu'au fond, il est tellement anecdotique, il devrait être anecdotique, puis il l'est pas en fait pour les personnages. Et puis je pense que de pas le montrer, c'est de dire qu'il n'a aucune importance. Mais évidemment, après tout ce qui se passe dans le film, nous démontre que ce baiser était complètement et bouleversant pour les personnages.
Qu'est-ce qui fait pour vous, Xavier, la beauté d'un baiser de cinéma? À quoi ça tient?
Je pense juste à la sincérité puis au désir entre les personnages. Il n'y a rien de pire qu'un baiser insincère entre deux acteurs entre lesquels on sent ou on devine une friction ou un malaise. Je pense que, en ce sens, c'était une bénédiction pour moi de connaître Gabriel, mon partenaire de jeu, depuis 6-7 ans. C'est-à-dire que, pour nous, se rouler une pelle, ça, il n'y a absolument rien là.
Mais vous vous souvenez, au cinéma, de personnes qui s'embrassent sur un écran de cinéma, quand vous étiez petit, à regarder des films, de ce que vous avez pu ressentir, justement?
Ben oui, je pense à plein de baisers de cinéma, mais...
Celui de Titanic,
vous en... ouais.
Par exemple.
Putain, ça fait 10 ans que je vis en France parler de Titanic.
Ah non, non, vous n'avez pas obligé d'en parler.
Il faudrait vraiment que je regarde d'autres films. Je pense qu'il est temps de...
C'est un très grand film en même temps, ça va.
Oui, mais c'est que... Si je m'en veux, parce que j'aimerais penser à un autre baiser, je me dis, oh merde, il me parle de baiser, il faut que je lui nomme des baisers. Et puis le seul qui me vient à l'esprit, c'est merde. C'est celui de Titanic. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quand même un grand baiser de cinéma qui se veut tellement grandiose avec un coucher de soleil, à l'arrière qui est complètement iridescent, mauve, rose, jaune, orange, bleu. Toutes les couleurs sont dans le ciel. Puis il arrive, il la prend par derrière en plus.
Ah bah,
puis,
attendez, là, s'il la prend par derrière, c'est gagné. Mais
évidemment, non, regarde, écoute, on n'en parle même plus.
Pour le spectateur que vous êtes, le cinéma, c'est toujours une expérience physique, Xavier Dolan. Une expérience du corps qui s'adresse d'abord au corps du spectateur.
Ben, c'est-à-dire que dès qu'on parle de cœur, pour moi, on est dans le corps, puis on est dans le physique. Après, un film qui stimule juste mes facultés intellectuelles m'emmerde toujours un peu. Tu sais, c'est-à-dire que je suis sûr que c'est des gens qu'il y a un public pour, je sais en fait qu'il y a un public pour ces films, mais moi, l'espèce de cinéma naturaliste, qui s'assoit dans un coin puis qui regarde des personnages puis qui se fout un peu de leur gueule, l'espèce d'esthétique de la pauvreté, l'espèce de supercherie d'artistes un peu bourges là, qui s'insèrent dans une réalité pauvre ou désargentée, puis qui pensent avoir un regard sur un milieu social, mais qui au fond font juste exploiter une réalité sans rien foutre, puis s'asseoir sur leur cul avec une caméra, puis regarder des personnages en les ridiculisant ou en les filmant de dos avec les chines courbées tout le temps. T'sais, moi, je suis pas vraiment dans ce cinéma-là, qui est un cinéma pour moi sans lumière, sans effort, sans espoir. Ça ne m'intéresse pas. Donc oui, il faut que mon corps s'engage, il faut que mon cœur batte pour moi, puis pour certaines personnes, ce sera toujours pour eux une faiblesse que j'ai, mais moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'émotion. Celui que je regarde, puis celui que je fais.
Tourner en pellicule, Xavier Dolan, c'est une façon aussi de produire cette émotion, de la rendre plus intense, plus vivante, l'expérience du spectateur.
Oui, définitivement, oui, parce que pour moi, c'est ça, la pellicule, c'est la vie, c'est l'âme d'un film. On sent le cœur qui bat, on sent une pulsation, on sent un grain, une texture, un relief, une profondeur. Je sais pas ce que je ferais si je pouvais plus tourner en pellicule. Je sais même pas si je ferais encore des films.
On va continuer à en faire en pellicule. Alors Xavier, merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mathias et Maxime, avec Gabriel d'Almeda Freitas, Pierre-Luc Funk, Samuel Gauthier, Anne Dorval, Micheline Bernard, entre autres, sort après-demain, que c'est un film France Inter. Longue vie à l'émotion, à l'amitié, à l'amour, à la vie, à la pellicule aussi.